Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, nous sommes en août 2021 et c'est l'épisode numéro 417. Déjà 417 épisodes, certains font des choses importantes à l'épisode 500, à l'épisode 1000. 417, c'est un épisode extrêmement spécial puisqu'on a deux des plus formidables co-animateurs dont on puisse rêver. Bon, Marion, vous la connaissez évidemment. Comment ça va Marion? Est-ce que tu es en forme aujourd'hui?
Écoute, avec une introduction pareille, c'est difficile de ne pas être en forme, Patrick.
C'est ça, moi j'amène la bonne humeur, la joie dans le cœur des gens. C'est ce que j'essaye de faire pour compenser les actus tech qui sont parfois un petit peu déprimantes. Mais aujourd'hui, on a des téléphones dont on va vous parler et des téléphones intéressants, innovants, vraiment même, j'irais jusqu'à dire, excitants potentiellement avec les nouveaux Galaxy Z Fold et Z Flip 3 et même une Watch qui m'a bien fait envie. Mais on va y venir dans un moment, il faut aussi que je dise bonjour à l'autre co-animateur qui, lui, alors, il a déjà été présent dans l'émission une seule fois, je crois, et il a fait un travail éblouissant et il est de retour avec nous. Fred Stojicevich, est-ce que je le dis à la, serbe, ou c'est serbe, c'est ça?
Tu t'améliores. Ouais, c'est bien d'origine serbe, ouais, c'est ça.
Dis-moi,
je voulais noter le dynamisme. Oui, pardon.
Je t'ai sûrement déjà posé la question la dernière fois, mais les Français vont dire Stojicevich ou comment? Comme c'est compliqué à chaque fois pour toi.
En français, tu vas plutôt dire Stojicevich, et après, en bon serbe, tu diras Stojicevich. Donc, tu as le J que tu prononces I. Voilà.
C'est comme en suédois, en fait. Le J, c'est I. Ah, mais j'ai appris un truc aujourd'hui.
C'est Ye. Non, le J, Ye. C'est Ye. Ah. Et en fait, moi, dans mon nom de famille, t'as le J et le I, donc tu fais I, finalement.
D'accord, très bien. Stojicevich. Ouais, on va dire ça. Que c'est bon. Super.
Et merci pour l'invitation.
Ouais. On va rappeler ça à la fin de l'émission pour voir si Patrick se souvient de la prononciation.
Ouais, mais je l'avais pas trop raté au début. Bon, en tout cas, on rappelle que tu es le propriétaire, animateur, rédacteur en chef de Chromebook Live. Et donc, ta passion, c'est Chrome OS.
Tout à fait, tout à fait. On en a déjà parlé la dernière fois, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais oui, les Chromebooks montent en puissance sur le marché mondial. Il faut s'intéresser au sujet, hein, bien sûr.
Évidemment.
Bien sûr. Il faudra un jour peut-être en discuter un peu plus longuement dans l'émission.
Ah, hein. Je ne te force pas. Un épisode spécial sur le sujet, ça pourrait être effectivement intéressant parce que c'est une plateforme qui est peut-être un petit peu moins visible que les autres, mais qui a son importance certainement, et dans certains domaines en particulier, comme l'éducation notamment. Mais bon, aujourd'hui, on t'a pas avec nous spécifiquement pour Chrome OS, mais plutôt pour ton amour qui est à peine plus modéré d'Android, puisqu'on va parler de plusieurs téléphone Android. On va aussi parler de nouvelles informations qui nous viennent du côté de les réseaux sociaux, bien sûr. On a des choses qui se passent chez Instagram, chez TikTok, qui suivent un peu la voie d'Apple, ou en tout cas qui continuent dans la voie de la protection de l'enfance. C'est quelque chose qui devient une vraie tendance dans la tech. On a des discussions intéressantes à avoir sur Salesforce, qui lance Salesforce Plus, qui est un service de streaming. Alors, Salesforce, c'est un outil de gestion de force de vente. Et un truc de streaming, vous allez me dire, mais quel intérêt? Eh bien, vous serez peut-être surpris. Et il y a d'autres sujets très intéressants. Une loi ou un projet de loi aux États-Unis qui pourrait forcer l'ouverture des App Store de manière assez dramatique. Je pense qu'Apple est en train de suer à grosses gouttes, même si on n'y est pas encore. Il y a d'autres sujets comme ça qu'on vous a sélectionnés. Mais avant de se lancer dans toute l'actualité, je voudrais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. Aujourd'hui spécifiquement, Guy Delhem, Cédric Guillot, Rodolphe Linet, Rudy Marron, Nico et les producteurs de cet épisode, Stéphane Nioret et Stéphane Grégory Sata, le couple dynamique des Stéphane qu'on adore ici. On adore tous les Stéphane, évidemment, mais en particulier ces deux-là, puisqu'ils participent de manière significative à la production et au financement de l'émission. Et quand je dis de manière significative, c'est parce qu'ils ont trouvé le niveau secret sur patreon.com/rdvtech, mais tous les patriotes contribuent de manière significative. Chaque euro est un trésor pour permettre à l'émission d'exister. Donc merci à vous tous, à tous ceux qui soutiennent l'émission et à tous ceux qui pensent à le faire peut-être dans les semaines à venir. Alors, commençons notre sujet principal qui va être... Ah, j'oublie de préciser évidemment, je vais essayer de le faire à chaque fois. On est en live sur Twitch tous les mardis normalement à midi. Donc si vous voulez nous suivre en live et interagir avec la communauté, c'est un moyen super sympa de le faire. Et aujourd'hui, je dis ça, mais on est lundi. Donc on enregistre un tout petit peu en avance. Mais généralement, c'est le mardi à midi pour le rendez-vous tech et le jeudi à midi pour le rendez-vous jeu. Donc ça, c'est un moment privilégié également. On passe de très bons moments ensemble. Et donc, l'annonce des nouveaux Samsung Galaxy qui a été faite il y a une toute petite semaine de ça, un petit peu moins, lors de l'événement Samsung Unpacked, comme un petit peu d'habitude. On a en été un événement Samsung qui d'habitude annonce plutôt les Samsung, les Note, qui ne sont du coup plus vraiment présents dans le line-up et qui sont remplacés, en tout cas pour cette année, par les Fold. Alors, vous vous souvenez que les téléphones pliables de Samsung ont été lancés il y a déjà 3 ans de ça, ça fait si longtemps, et il y en a désormais 2. Le premier était simplement le Samsung Galaxy Fold. Il a été renommé Samsung Galaxy, alors que je ne dise pas de bêtises sur le nom, Galaxy Z Fold, et il a une contrepartie, le Z Flip. Et tous les deux sont, les deux modèles en sont à la 3e itération. Donc on a le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. La différence entre les deux, c'est que tous deux font la taille approximative d'un téléphone normal. Le Fold s'ouvre pour devenir une sorte de mini-tablette, en quelque sorte, alors que le Flip, lui, se ferme sur la largeur pour devenir un petit peu un téléphone à clapet et avoir une taille vraiment réduite. Ils ont en gros annoncé des améliorations qui sont pour certaines assez significatives. Dans l'ensemble, les appareils sont très similaires à ce qu'on a vu les années précédentes, donc il n'y a pas d'énormes changements de ce qu'on appelle le form factor, donc simplement la forme, le design des appareils au niveau macro, mais dans le fonctionnement, il y a évidemment des updates substantiels, comme on les a avec les mises à jour annuelles de tous ces téléphones. Je vais lire de mes notes. Le Galaxy Z Fold 3, donc celui qui s'ouvre pour avoir une taille de tablette, peut-être que l'amélioration la plus importante, c'est qu'il est compatible avec le S Pen. Le S Pen, qui est donc le stylet de Samsung. Et donc, on peut désormais utiliser cette tablette ouverte en mode vraiment calepin. Et on a le S Pen qui fait tout ce que fait le S Pen d'habitude. On a également une caméra sous l'écran intérieur, ce qui fait que l'écran intérieur est beaucoup plus, on va dire, propre. Il n'y a pas le petit trou pour la caméra. Et la caméra elle-même est sous l'écran, sauf que on a quand même au-dessus de cette caméra un mini-écran OLED qui est un petit peu visible, c'est-à-dire que la couleur des pixels n'est pas exactement celle du reste de l'écran, donc si on y fait attention, on voit un petit peu une couleur différente sur cette petite zone qui est toute petite, hein, cette petite zone circulaire, et si jamais on prend une photo, eh bien cet écran OLED qui obstrue la caméra s'éteint et donc on voit à ce moment la caméra, je dis la caméra évidemment, on parle de l'appareil photo. Il a en plus de ça 3 caméras sur l'arrière et je crois bien même une caméra sur le devant, donc il a vraiment des caméras partout, on peut l'utiliser pour prendre des photos de toutes les manières possibles. Il a également une certification IPX8. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le premier chiffre dans ces certifications, c'est la résistance à la poussière. Le deuxième, c'est la résistance à l'eau. Donc, IPX8, ça veut dire qu'il n'a pas de résistance à la poussière. Donc, attention si vous allez à la plage. Évidemment, avec la charnière et l'aspect pliable, bah, la poussière peut rentrer assez facilement. Donc, ça, il faut y faire attention. Mais 8, ça veut dire qu'on peut vraiment avoir une résistance à l'eau sensible. Je ne sais pas si on peut le lâcher dans un verre d'eau. Mais en tout cas, s'il pleut, ça posera pas de soucis. Une autre chose à noter, il n'y a pas de module de rangement pour le S Pen. C'est-à-dire que le S Pen, il faut l'avoir dans la poche ou l'avoir quelque part, mais il ne va pas, comme avec le nôtre, se ranger dans le téléphone lui-même. L'écran est plus résistant qu'avant. Il y a une sensation de verre plus comparable à celle des téléphones classiques que ça n'était le cas avec les appareils précédents. Donc, on me dit dans la chatroom, Christophe de Studio Renegade nous dit qu'effectivement, ils l'ont immergé dans un verre d'eau et chez Linus Tech Tip, et ça n'a pas posé de problème, donc on a quand même une bonne résistance à l'eau, on est d'accord. L'écran a plus la sensation du verre, même si évidemment la pliure se voit toujours, ça c'est malheureusement à ce stade inévitable. Et l'autre chose notable, c'est qu'il est meilleur marché que l'année dernière et l'année précédente. Alors, meilleur marché à ce genre de prix, ça reste quand même très très cher. On parle de 1 700 €, mais il était à 2 000 € l'année dernière. Celui qui est peut-être un petit peu plus intéressant, moi qui m'a encore plus intrigué, c'est le Z Flip, donc celui qui a une taille normale et puis qui se plie pour devenir moitié moins grand. Là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on a un écran externe qui est beaucoup plus grand que l'année dernière. Il fait 1,9 pouces, c'est-à-dire 4 fois plus grand qu'avant. Là où l'année dernière, l'écran qui est sur le devant de l'appareil, donc quand l'appareil est fermé, il était vraiment minuscule et il était complètement... comment dire, il servait à donner des notifications, on va dire, mais rien de plus. Cette année, il peut vraiment être utilisé comme un écran fonctionnel où on va avoir des sortes de widgets pour contrôler différents aspects de l'appareil. Donc, c'est une évolution vraiment importante pour cet appareil qui se plie. Les autres éléments, c'est le même écran qui est un petit peu plus, qui a cette sensation de verre. Lui n'est pas compatible avec le S Pen, par contre. Et l'autre fonctionnalité entre guillemets importante, c'est le prix, puisque là, on a une baisse qui est vraiment substantielle du prix. On passe de 1 700 € environ l'année dernière à 1 000 000 €, 1 059 €. Et donc, évidemment, c'est une baisse importante. À noter qu'il est lui aussi certifié IPX8, donc on peut le mettre dans l'eau si on le souhaite. Et son écran est un écran 120 Hz, donc super fluide. Les deux sont équipés d'un processeur Snapdragon 888, qui est l'un des derniers de la gamme Snapdragon, donc c'est des processeurs très rapides. Voilà pour les résumés sur les deux appareils. Du coup, je me tourne vers Fred, qui lui est un utilisateur d'Android aguerri. Est-ce que c'est des appareils qui... Donc, est-ce qu'ils sont, prêts à la consommation, on va dire, après 2 années où c'était des performances, mais peut-être pas forcément intéressant, ne serait-ce qu'au niveau du prix. Qu'est-ce que tu penses, toi, du Z Fold et du Z Flip?
Alors, juste pour la petite histoire, hein, moi, j'étais vraiment utilisateur aguerri de Samsung. Hein, je crois que j'étais chez Samsung pendant 5-6 ans, jusqu'au Samsung Galaxy 10, puis j'ai décidé, en fait, de basculer sur Pixel, hein, pour pas avoir de surcouche, hein, globalement constructeur. Et c'est vrai que quand je vois ces deux innovations, hein, bah, qui restent finalement dans la continuité de ce que fait Samsung d'ordre général, c'est vrai qu'il me hype beaucoup. J'aurais plutôt une préférence pour le Fold, parce que j'ai l'impression que ça apporte plus de valeur ajoutée de pouvoir en fait basculer d'un mode, on va dire, de smartphone normal au mode tablette. Cela dit, effectivement, enfin, par contre, ça hype pas trop le portefeuille à 1 700 €. Je trouve que c'est pas encore abordable, et je pense pas que ça va se démocratiser tant que ça. On reste encore sur un produit pour moi un peu élitiste, et je trouve, hein, que cette caméra en fait sous la dalle, bah, ça fait alors je vais peut-être un peu être difficile, mais c'est vrai que ça fait un peu tâche, ça fait produit qui n'est pas encore terminé, parce qu'on a en fait cet écartement de pixels. Là, j'avais vu des vidéos hier sur internet. Alors, bien évidemment, quand on va consommer du contenu type vidéo avec des couleurs un peu noires, hein, ça, on le voit pas, on l'oublie assez rapidement, mais voilà, sur dès qu'on va avoir des surfaces un peu blanches, on va tendre à, en fait, à le voir, et je trouve que donner en fait 1 700 euros pour quelque chose qui n'est pas forcément encore fini, mais encore une fois, c'est un choix personnel, mais moi, je ne mettrais pas les 1 700 là-dessus, quoi.
Oui, oui, c'est sûr que c'est cher. Là, j'ai l'impression quand même qu'ils sont tous les deux... disons, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils ne sont pas finis. C'est qu'ils ont des caractéristiques techniques qui sont ce qu'elles sont par rapport à l'appareil. Mais je les trouve justement que la finition est quand même assez aboutie. On voit sur le Z Flip 3, par exemple, que l'écran qui est devant... ça fait plus gadget, c'est un vrai écran. On peut déclencher l'appareil photo en gardant le truc fermé pour utiliser l'écran pour faire un selfie, et on se voit dans l'écran. Enfin, c'est abouti, quoi.
J'insiste, Patrick, hein, je ne parle pas du tout du produit dans sa globalité. Hein, je fais vraiment le focus sur la caméra sous la dalle, qui fait un tout petit peu tâche. Mais autrement, non, on reste sur des innovations qui sont plaisantes. Et j'aime bien aussi sur la partie flip le fait de pouvoir effectivement poser et se dire qu'on peut peut-être faire effectivement des vidéos sur TikTok ou sur YouTube, et on peut effectivement bien se voir en le posant, quoi. Donc c'est c'est des technologies qui sont intéressantes. Après, il y a effectivement le prix, ça c'est propre à chacun.
Ouais. Moi, je suis assez séduit par le Z Flip 3, encore plus que le Fold 3, je crois, parce que le Fold 3 est volumineux. Marion, est-ce qu'il y en a un des deux qui te parle le plus ou c'est pas pour toi?
C'est le flip, hein. Déjà sur la précédente génération, je le trouvais le plus intéressant. En fait, je ne comprends pas trop l'intérêt du Fold avec ce mode tablette qui n'en est pas vraiment, qui rend le téléphone très très lourd et qui ne va pas tenir tout seul. Alors que contrairement à un iPad, il va avoir une cover qui va pouvoir le faire tenir sur un mode paysage. Donc je trouve ça vraiment... je ne comprends pas l'aspect pratique. Alors après, en effet, on peut plus facilement dessiner, etc. Pour ceux qui avaient l'usage d'un pencil, je pense qu'eux se retrouveront peut-être en effet sur le Fold. Moi, je n'ai jamais fait partie en tout cas de cette clientèle. Donc en effet, le Flip pour moi est parfait, parce qu'en fait, il va réduire la taille du téléphone. Je ne peux pas glisser. J'ai un iPhone 12 mini, hein, c'est pour vous dire la taille du téléphone. Oula, que j'ai. Oui. J'ai quand même le plus petit des iPhones, qui reste quand même grand et que je ne peux pas glisser dans mes poches parce que les poches des vêtements féminins, entre guillemets, sont quand même plus petits.
Ça, c'est la faute des poches. C'est pas la faute des téléphones. Mais oui, on est d'accord.
Oui, mais bon, dans la vie de tous les jours, c'est pas pratique, quoi.
Non, mais c'est vrai que... Je crois que l'une des plaintes que j'entends le plus de toutes les femmes du monde, c'est « mais bon sang, et je pèse mes mots, arrêtez de nous faire des vêtements avec des poches minuscules qui ne sont pas des poches, quoi, mais ça suffit ». Donc je compatis.
Il y a ça. Et puis en plus, la prise en main est très agréable quand il est plié. Ouais. Ça fait évidemment penser à tout ce qui est miroir de poche, poudre compacte. Alors là, encore une fois, je suis dans le schéma féminin. Mais en fait, pour connaître ce genre d'usage, c'est super agréable à tenir en main. Donc en fait, avoir un smartphone qui se plie comme ça dans la main, moi, ça me fait envie, même pour naviguer, pour consommer. En plus, certaines applications ont été conçues intelligemment pour s'adapter à ce type de format. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de possibilités avec le flip de manière intelligente que le fold, mais encore une fois pour mon cas d'usage. Alors après, là où je vais pas craquer cette année, c'est que le fait qu'il soit pas résistant à la poussière, pour moi c'est juste pas possible pour un... Exactement, pour un téléphone qui va devoir se glisser dans le sac, qui va être jeté, et en plus, si vous remarquez, quand il est plié, il est pas plié de manière uniforme sur toute la longueur du téléphone.
La charnière fait qu'il y a une petite courbure.
Exactement. Alors là, c'est idéal pour qu'il y ait un truc qui se glisse là et que vous pétiez l'écran. Là, je sens le drame, quoi.
D'accord. Moi, j'avoue que d'une manière générale, je les trouve quand même extrêmement intéressants, ces appareils. Et je trouve que même si on n'a peut-être pas exactement encore les cas d'usage spécifiques, ça commence à se dessiner vraiment. Et on a des choses qui sont intéressantes et excitantes dans le domaine des téléphones mobiles. Et c'est à peu près la seule chose de ce type qui se passe dans cette industrie depuis un bon nombre d'années. Parce que ce soit du côté d'Apple ou de Google ou d'autres, c'est quand même des petites innovations incrémentales qui ne changent pas la nature de l'appareil. Et là, Samsung a montré que même si la première génération n'était pas exempte de défauts du tout... au contraire, eh ben, ils ont persévéré et ils ont réussi à donner quelque chose qui, là, ressemble, à mon sens, à un produit fini.
Juste pour un petit dernier point, je pense qu'il y a une opportunité que Samsung devrait saisir, c'est taper dans la génération TikTok, parce que le flip
ils en parlent,
parfaitement... Oui. Ouais, le flip est parfaitement adapté pour faire des vidéos TikTok, puisqu'en fait il tient tout seul puisqu'il est plié. Et je pense que s'ils arrivaient à sortir une alternative un poil moins chère pour que ce soit un peu plus accessible, ils pourraient vraiment faire un gros buzz et démocratiser complètement le flip. Hein. Je pense que là il y a un vrai créneau quoi.
Fred, tu voulais ajouter quelque chose? Je t'entendais.
Non, je suis entièrement d'accord avec Marion. Hein. Il y a cette cible-là qu'il faut essayer de récupérer absolument, tout en sachant que là, on est sur un marché, et si je dis pas de bêtises, en France et en Europe, qui commence tout juste à être dominé par Xiaomi. Donc il faut effectivement que Samsung accélère sur le sujet, et ce support, hein, comme on peut le voir dans les vidéos, est vraiment adapté pour se filmer. Hein.
Ouais, je pense que les gens qui sont très sérieusement sur TikTok ont des supports et ce genre de choses, mais peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui veulent juste poser le téléphone et pas trimballer le support, c'est vrai. Une petite note pour dire que la présentation que j'ai pas vraiment, dont j'ai pas parlé, je trouve qu'on est là chez Samsung, ils ont parfait l'appelisation de leur présentation. Je parle de la conférence vraiment. C'était fait de manière hyper propre et on sent vraiment l'influence d'Apple qui, c'est un des trucs qu'ils font très très bien. Donc autant que les autres les copient, mais on est très loin des présentations avec spectacle de cabaret un petit peu ridicule qu'on avait eu il y a quelques années et qui s'était beaucoup estompé les années suivantes. Mais on retrouve même dans les codes de langage, on a retrouvé chez Samsung des choses du genre « nos utilisateurs adorent la versatilité de l'appareil machin ». C'est des trucs qui ne veulent rien dire, qui ne sont pas « on en a vendu tant, il y a tant d'applications, il y a tant ». Non, c'est « nos utilisateurs nous ont dit comme ils s'étaient excités d'utiliser ces fonctionnalités ». C'est ce que dit très souvent Apple et qui ne veut rien dire du tout. J'ai trouvé ça amusant. Et même dans la présentation physiquement, c'était très similaire. L'autre chose, c'était en temps de Covid, hein, donc évidemment, ils n'avaient pas de public, donc ça a peut-être influencé. L'autre chose que je voulais noter, c'est qu'on a eu à la fin de la présentation une partie sur l'aspect éco-responsable de leur processus chez Samsung. Et là, par contre, pour le coup, j'ai trouvé ça là où d'autres, et Apple notamment, mais pas que, parlent de manière relativement concrète. Après, on peut parler de greenwashing ou pas, ils ont moins des chiffres à mettre en avant. Chez Samsung, c'était vraiment des déclarations d'intention qui étaient autant du vent que nos utilisateurs nous ont dit comme ils aiment telle ou telle chose. Je l'ai remarqué en regardant la présentation, donc je vous fais passer l'impression. Et pour continuer dans les aspects un petit peu sexistes de tout ça, ce que tu disais tout à l'heure, Marion, c'est retrouvé un petit peu dans la présentation. Le Z Fold, c'était le truc pour le business et c'était essentiellement des hommes qui le mettaient en scène. Le Z Flip, c'était la nana qui va prendre son café au café du coin et qui va marcher avec son Z Flip dans la main. Ça me fait toujours un petit peu grincer des dents, ce genre de choses. Mais je le mentionne en passant. Une autre chose qui était vraiment convaincante aussi, et j'ai trouvé que là, ils ont parfait, ou du moins largement appuyé sur la qualité de cette présentation, c'était la Watch 4, qui est déclinée en deux modèles, la Watch 4 et la Watch 4 classique. Et elle est vraiment là, je trouve, au niveau du design, un cran au-dessus de ce qu'on retrouve chez la concurrence, y compris chez Apple. Évidemment, la montre connectée la plus populaire au monde, c'est l'Apple Watch. Là, on a une montre qui est vraiment hyper séduisante. Elle est ronde, comme d'autres, mais elle est hyper bien conçue. On sent la solidité, la beauté. Ça ressemble à une vraie montre et pas à un mini téléphone que tu as mis sur ton poignet. Il y a évidemment cet élément de contrôle qui est le cadre qui tourne ou qu'on peut faire faire tourner. Je crois que sur l'un des modèles, c'est capacitif, mais en tout cas, on peut le faire tourner pour contrôler l'interface. Et puis, elle est très bien conçue, cette interface, et c'est la première montre Samsung depuis un moment à utiliser la nouvelle version de Wear OS, enfin, à utiliser Wear OS. Ils ont un petit peu quitté Tizen, et il y a eu cette collaboration annoncée avec Google pour une nouvelle version de Wear OS qui intégrerait les innovations ou les aspects positifs de Tizen, qui était l'OS qu'ils utilisaient avant chez Samsung pour les montres. Et bah, quoi qu'il en soit, ce n'est pas vraiment notable parce qu'ils utilisent leur interface One UI sur la montre pour personnaliser tout ça à la sauce Samsung. Mais dans la pratique, ça donne une montre qui est vraiment super jolie et dont l'interface a l'air très efficace aussi. Ils ont simplifié les choses, ils ont des applications de santé qui sont hyper faciles à comprendre, beaucoup plus à vrai dire que la concurrence, y compris chez Apple. Bref, j'ai été séduit par ces montres-là. Elles fonctionnent sur n'importe quel téléphone Android. On n'est pas obligé de les appairer avec un Galaxy. Et elles sont à un prix de quelque chose comme 250-300 euros, et la plus chère autour de 400 euros, j'imagine, en prix français. Donc vraiment, je trouve une mise à jour convaincante pour cette nouvelle watch. Et je vous redonne la parole également. Ben, Fred, est-ce que tu es un adepte des montres connectées? Et sinon, est-ce que celle-ci pourrait te séduire?
Bah écoute, ouais, je suis un utilisateur. J'utilisais les Xiaomi Band, si vous connaissez. Hein, c'était du coup les petits bracelets connectés de Xiaomi. Hein. Moi, j'ai un usage qui est vraiment limité, je dirais, au côté avoir l'heure, la partie podomètre, et surtout, alors un truc hyper important, c'est le réveil. Hein. Ce que j'adore, c'est avoir en fait une montre qui a beaucoup d'autonomie et qui puisse me réveiller le matin sans forcément réveiller madame. Et je suis surtout à la recherche d'autonomie.
Donc là, je pense que c'est pas celle-là. Hein. Ouais. Ce genre de montre, c'est
ce sera toujours pas celle-là. Bah 40 heures d'autonomie en promesse d'autonomie, il me semble. Donc, bon, c'est déjà deux jours, mais ça m'embête à chaque fois de les recharger. Mais autrement, enfin, la démarche, hein, que ce soit au niveau du design et ensuite l'inclusion, hein, de Wear OS, ça peut être juste. Enfin, on peut effectivement le saluer, et j'espère qu'ils iront plus loin avec et travailler, faire un effort sur effectivement l'autonomie. Mais la montre en plus paraît être abordable. Hein. Tu disais combien de 250 euros,
250-300 euros, ouais, pour le modèle de base et le modèle. Comment il l'appelle, classique, qui est un petit peu plus
classique. Cher. Ah oui, le classique, c'est avec le cadran, c'est ça. Hein,
c'est ça, exactement. Oui.
Il me semble ça qui. Ouais, bah écoute, enfin, ouais, non, c'est un bon move, je pense, de Samsung. J'en suis pas encore la cible.
D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser même si on n'a pas un téléphone Galaxy, comme je le disais. Et je parlais des fonctionnalités de santé. Il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont devenues standards chez la concurrence, que ce soit l'électrocardiogramme. Et ils ont la détection de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais la quantité d'eau qu'on a dans le corps, qui permet de donner plein d'informations, l'oxygène dans le sang, etc., etc. Donc, c'est vraiment complet à ce niveau-là également. Marion, est-ce que toi, tu vas te précipiter à acheter une Galaxy Watch 4 ? Bon, tu as un iPhone, donc c'est pas forcément.
Je suis mal barrée.
Peut-être que la question plus judicieuse, c'est est-ce qu'elle te fait envie, même si tu es du côté d'Apple ? Parce que moi, c'est le cas, elle me fait vraiment envie. Je la trouve beaucoup plus belle que ce truc que j'ai au poignet, là, qui est tout carré comme un iPhone.
Ouais, exactement. En fait, pour ceux qui me connaissent, vous êtes déjà peut-être au courant que je n'aime pas du tout le form factor de l'Apple Watch. Je ne l'ai jamais aimé. Je ne dis pas que je ne l'aimerai jamais, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas changé. Et du coup, bah, moi, je suis plutôt montre au form factor classique, donc plutôt rond. Et là, donc, j'aime vraiment, vraiment le modèle normal, le modèle de base. Je suis moins fan du modèle classique, que je trouve un peu trop gros, un peu trop épais.
Avec son cadran, oui, le modèle de base n'a pas le cadran mobile physique, ouais.
Alors, je trouve que le cadran mobile est super astucieux et super intéressant. J'aurais beaucoup aimé jouer avec et voir comment ça fonctionne, comment on navigue, etc. Je pense que c'est très agréable. Mais d'un point de vue design et simple goût, je suis très fan du modèle régulier, normal, que je trouve très simple, très épuré. Et moi qui ai un petit poignet, je serais très curieuse de l'essayer à mon poignet. Et en plus, Wear OS, là, me tente beaucoup. Je pense qu'en plus, l'association du savoir-faire de Samsung et de Google peut être très intéressant avec Fitbit. Je suis très très curieuse. bon, j'ai un iPhone. Donc.
Ouais, je crois qu'il y a vraiment. En plus, on a une qualité d'écran qui est, j'ai l'impression, supérieure à ce qu'on trouvait il y a quelques années sur ce type d'appareil. Et on a vraiment l'impression que c'est une montre, une vraie presque, avec un écran d'une qualité assez incomparable. Et comme on a une montre qui est ronde, ça marche beaucoup plus pour donner cette illusion qu'avec les montres carrées ou rectangulaires. Donc, oui, moi, je suis assez convaincu aussi. D'une manière générale, je trouve que Samsung réussit bien à recréer ce qu'on apprécie chez Apple, c'est cette force de l'écosystème. Ils ont donc maintenant des téléphones qui sont extrêmement aboutis, ça fait un moment, mais une montre qui est vraiment convaincante. Ils ont aussi annoncé, on ne va pas passer trop de temps dessus, mais des nouveaux Galaxy Buds, donc ces écouteurs sans fil, les Galaxy Buds 2, qui sont un petit peu comparables aux Galaxy Buds Pro, mais qui sont à 150€, peut-être un petit peu plus en France. Donc, on a cet écosystème qui se forme et l'ensemble fonctionne, ou en tout cas a l'air de vraiment fonctionner. La conclusion de ça, si on regarde ça d'une manière un petit peu plus globale au niveau de l'industrie, c'est que j'ai l'impression que Samsung... ils étaient toujours sur la position de l'alternative Android au haut de gamme que prend Apple chez eux. Et donc, ils forment l'alternative haut de gamme chez Android. Mais là, on a cette ambition qui commence à être véritablement réussie avec des appareils qui sont séduisants à de nombreux, nombreux niveaux. Je crois qu'aujourd'hui, si on est chez Android, si on est du côté d'Android et qu'on veut des appareils haut de gamme, les appareils Samsung s'imposent un petit peu comme le choix évident pour une grande partie des utilisateurs. Je vais alors
juste pour rebondir sur les Galaxy Buds. Moi, j'ai été très très impressionnée des photos que j'ai vues portées, où en fait on voit pratiquement pas les écouteurs. Je trouve que de tous les modèles de Samsung, celui-ci est vraiment vraiment impressionnant. J'étais assez impressionnée. Et du coup, je me demande, est-ce que c'est facile à enlever de l'oreille en fait ? Ils sont tellement discrets et tellement peu visibles finalement dans l'oreille. Je me suis posé la question si c'était facile à enlever ou pas. Je ne sais pas si...
Ils ont quand même une certaine taille qui sort de l'oreille. Il y a une petite partie ronde qui sort de l'oreille. Je pense que ça va quand même pour les attraper. Mais c'est vrai qu'ils sont moins envahissants que les AirPods qui ont lancé cette mode, effectivement.
Ouais, mais les AirPods, après, sont très pratiques à mettre et à enlever, quoi. Donc, tu vois, là, je ne dis pas, il y en a un qui est mieux. Je serais curieuse de tester.
Moi, j'ai mes écouteurs ici, là, en enregistrant, mes gros écouteurs over-ear. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai des AirPods en dessous. Non, je plaisante, mais on n'est pas si loin, en fait. Je les ai toujours dans les...
Ça m'a fait peur, là.
je voudrais juste vous poser la question, peut-être plus à Fred du coup, mais on a aussi eu des annonces du côté de Xiaomi avec le Mix 4 qui est très beau, très bien designé, et du côté de Honor avec le Magic 3, c'est le premier téléphone de Honor après la vente par Huawei. C'était une marque de Huawei qui évidemment est sous le coup des interdictions des États-Unis. Donc on a et donc ils peuvent là chez Honor avoir l'écosystème Google, ce qui n'est plus le cas chez les téléphones de Huawei étant donné les restrictions des États-Unis. Mais donc le Xiaomi qui est très beau, qui a plein d'appareils photo etc, et qui a presque pas de bordure, vraiment très sympa. Et le Magic 3 de Honor, qui lui a une chose qui me plaît pas mal, c'est cette zone à l'arrière pour les appareils photo, qui est une sorte de grand objectif, enfin une zone circulaire, dans laquelle il y a quatre objectifs, en fonction du modèle, trois ou quatre objectifs qui sont placés dedans. Donc, c'est un rond, en fait, comme pour les montres. J'ai l'impression que j'aime pas les trucs carrés, j'aime les trucs ronds. Voilà, moi, j'aime les trucs fluides. Et je trouve que c'est esthétiquement assez, assez beau. Le Xiaomi est, lui, un petit peu plus classique. Et bon, c'est comme souvent chez Android, on se dit « Ah, bah, il y a des téléphones cool qui sortent. Après, il faut plonger dans les détails dans lesquels on ne plongera pas aujourd'hui si on veut faire son choix ultime. » Mais c'est des appareils assez convaincants au niveau du design et, du, et des performances, enfin des features, des specs, ouais.
Ouais, ouais. Enfin, j'avais vu également que sur le Xiaomi Mix 4, si je te dis pas de bêtises, tu as la caméra qui est sous la dalle également. Tout alors, j'ai pas fait, encore exactement. Regardé de vidéo pour vérifier ça, et je serais bien intrigué là. Enfin, je vais essayer de regarder sur internet pour voir si au moins c'est un peu mieux fait que chez Samsung, pour savoir si finalement les concurrents chinois sont dans la place. Bah,
c'est pas les premiers. Hein. Ça a déjà existé les caméras sous l'écran, mais c'est vrai qu'on a souvent cette petite, on va dire, couleur un peu
de pixels.
Ouais, écartement ouais. De pixels du ouais.
Mais globalement ouais, enfin ce qui est intéressant toujours de noter hein, c'est que du Xiaomi et du Honor commencent à investir énormément sur le marché, Xiaomi qui le lead hein. On a aussi d'autres constructeurs chinois hein, comme Realme hein, je sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, qui ont sorti typiquement on parlait tout à l'heure du processeur Snapdragon de 888, ça a été les premiers à le faire et à imposer leur GT je crois comme le plus puissant du marché. Donc non c'est pas étonnant voilà que ça avance dans le bon sens. Et au niveau du design, effectivement, moi je suis assez d'accord avec toi pour ce qui est du Honor. Le rond, là, le gros objectif arrière qui regroupe, qui agrège un peu tous les capteurs, je trouve ça assez sympa. Ouais. Mmh.
Ce qui est notable également, alors tu parlais du Snapdragon 888, ils en sont tous équipés. Ce qui est notable aussi, c'est que c'est des appareils qui sont plutôt dans le haut de gamme. Le Mi Mix, en fonction de la version, il peut être un peu moins cher, mais on atteint assez vite les 1000 euros. Donc on n'est pas dans les appareils bon marché dans ces marques. Alors, ils ont toutes sortes d'appareils. Hein, donc, parfois, ils ont des modèles qui sont plus ou moins chers. Ceux-là, c'est clairement les modèles haut de gamme. Et ce n'est pas forcément une chose à laquelle on était habitué pour ces marques-là, historiquement.
Ouais, c'est vrai, tu as une montée en gamme de ces constructeurs, clairement, ouais. Clairement.
Et c'est parce que c'est là qu'est l'argent. Hein. C'est pour ça, quand on parle des parts de marché et que Android fait 80% des appareils dans le monde et que Apple n'a que 20% de parts de marché sur les smartphones, et c'est le cas bien sûr, mais Apple se concentre sur le haut de gamme, là où ils peuvent marger le plus. Et c'est ça qui appâte, on va dire, tous les constructeurs du monde de faire de la marge sur les appareils plutôt que sur le volume.
C'est pour ça que j'espère effectivement que Samsung tiendra le coup au moins avec le flip. Hein. J'ai quelques craintes hein, pour le coréen là-dessus, vis-à-vis de cette concurrence chinoise qui arrive à grands pas. Hein.
C'est vrai. Eh bien écoutez, je vais vous faire une toute petite pause pour vous parler de Patreon et pour vous parler des Patriotes qui sont ces personnes formidables qui étaient des auditeurs comme vous, normaux, complètement basique et qui allait dans la vie tous les jours sans se soucier de ce qu'ils allaient faire dans la journée. Et puis un jour, ils ont eu une sorte d'éveil spirituel, mental, intellectuel et ils se sont dit « pour vraiment accomplir mon potentiel de patriote, il faut que j'aille sur patreon.com/rdvtech » pour soutenir le rendez-vous tech. Et pourquoi, me direz-vous, ont-ils eu cet éveil si important ? C'est parce qu'ils ont écouté l'émission et qu'ils se sont dit « c'est une émission cool ». C'est ça la question à se poser en fait. Est-ce que l'émission est cool ou pas ? Si l'émission est cool et que vous avez vous appréciez de l'écouter, de l'avoir dans votre application de podcast en vous réveillant le matin ou en sortant de chez vous ou en faisant le ménage, eh bien là, vous pouvez vous dire « elle vaut un petit soutien ». On parle pas forcément de grand-chose. Hein. On peut parler d'un euro, deux euros, un épisode. Est-ce que ça vaut le prix d'un café, le prix d'un croissant, le prix d'un sandwich peut-être ? Ça, c'est vous qui choisissez. Mais les gens qui ont décidé d'aller sur patreon.com/rdvtech et qui ont décidé de devenir patriotes ont témoigné. Enfin, j'ai entendu une personne qui est patriote d'un podcast, peut-être que c'est moi, mais cette personne m'a dit « je me sens beaucoup mieux depuis que je soutiens des podcasts ». Et ça, je trouve que c'est une preuve absolument incontestable de l'effet positif qu'on a quand on devient patriote d'un podcast, et en particulier du Rendez-vous Tech que vous écoutez en ce moment. Donc, si vous appréciez le Rendez-vous Tech, allez voir sur patreon.com/rdvtech et vous pouvez devenir patriote et bénéficier de tous les bonus super cool qui sont à votre disposition. Et qu'il y a eu un son dont je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais qui m'a beaucoup perturbé dans mon ordinateur. vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et devenir patriote, et vous aurez tout à coup, vous allez voir, essayer, et vous vous sentirez mieux en vous réveillant demain, ou au moins en écoutant le prochain épisode, vous vous direz, moi je participe à financer ce type de produit que j'apprécie, parce que contrairement aux médias traditionnels, on n'a pas les accès aux moyens de production et aux moyens de financement qu'ils peuvent avoir. Et ce type de podcast, ce type de produit n'existe que dans ce format. C'est un truc qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, si vous l'appréciez, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Ça prend 2 minutes. Vous pouvez le faire depuis votre mobile tout de suite. patreon.com/rdvtech. Merci à tous et toutes.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Alors, parlons un petit peu de la suite. Je voudrais vous parler un petit peu d'Instagram et de nouvelles fonctionnalités qu'ils sont en train d'implémenter pour protéger les gens contre le harcèlement. Il y a une fonctionnalité en particulier, en fait, c'est à la suite de harcèlement dont ont été victimes les footballeurs anglais. Ils ont annoncé de nouvelles fonctionnalités et l'une d'entre elles est vraiment intéressante. C'est une fonctionnalité qui s'appelle la limite et qui va permettre de cacher les commentaires et les demandes de messagerie directe de personnes qui ne vous suivent pas ou qui ne vous suivent pas depuis un certain temps. Et ça, c'est une fonctionnalité qui, je pense, devrait être implémentée sur tous les réseaux sociaux, qui l'est déjà sur certains services, qui est vraiment intelligente parce que si vous êtes victime d'une vague de harcèlement en raison d'une chose que vous avez dit qui n'a pas plu à certains ou qui vous ont été envoyés par d'autres personnes qui vous ont pointé du doigt, eh bien, peut-être que votre communauté est très cool et vous voulez interagir avec elle, mais vous ne voulez pas toutes ces personnes qui se sont mis à vous suivre ou qui ne vous suivent pas ou qui sont mis à vous suivre récemment pour pouvoir vous harceler. Je trouve que c'est une implémentation qui est vraiment convaincante. Il y a d'autres choses, hein, comme la possibilité de cacher des mots ou des choses comme ça. Dans les mains des utilisateurs. Il y a TikTok qui a également annoncé des mesures pour protéger les adolescents. Là, on parle d'utilisateurs de 13 à 17 ans. Il y a, par exemple, le fait que les utilisateurs qui ont moins de 16 ans vont devoir choisir qui peut regarder leur contenu la première fois qu'ils postent une vidéo. Ils peuvent choisir les gens qui les suivent ou les amis ou seulement, enfin les amis, les personnes avec lesquelles ils sont connectés sur le réseau ou seulement eux-mêmes. C'est-à-dire que l'option que tout le monde puisse voir leur vidéo sera désactivée. Et ceux qui sont encore plus jeunes auront des notifications push après, ne recevront pas de notifications push après 9 heures pour qu'ils ne soient pas tentés d'ouvrir leur téléphone. Et ceux qui ont entre 16 et 17 ans, ça sera après 10 heures et elle recommence à 8 heures du matin. Sur ces deux mesures, j'imagine que je peux déjà imaginer ce que vous allez me dire sur celle qui concerne TikTok. Je vais poser la question à Marion. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que... Je crois que je sais ce qu'elle va me dire, mais je te pose la question quand même. C'est une bonne chose pour protéger les adolescents quand même, non ?
Tu m'intrigues, Patrick. Je sais pas ce que tu penses que ce que je veux dire. Non, je trouve ça intéressant, notamment le fait de limiter le nombre de push notifications ou même l'heure à laquelle sont envoyées les push notifs. Après, ça peut être contrôlé du côté produit aussi, c'est-à-dire on n'envoie pas des push notifs pour un membre qui est en dessous de tel âge à partir de. Enfin,
bah, c'est ça qui est. Avant. Voilà. C'est ça qui est annoncé. Hein. Si vous avez tel âge, ils ne vous enverront pas de notification entre telle heure et telle heure.
Donc, je trouve ça bien. Je trouve que j'ai envie de te dire, ça peut être bénéfique pour tout type d'utilisateur, mais pour laisser dormir les gens. Mais bon, après, certaines personnes vont aussi dire, mais pourquoi je ne peux pas les recevoir en temps réel parce que je suis à fond et je veux vraiment suivre en temps réel l'actu, etc. Ou l'actu ou ce qui se passe sur TikTok. Mais non, je trouve ça bien le fait de limiter à des heures raisonnables, en tout cas pour les gens avec un certain âge. Maintenant, pour pareil, le fait de poster, de demander avant le premier poste à qui vous souhaitez poster, je trouve ça bien, encore une fois. Bon, ça rajoute évidemment des étapes dans l'expérience utilisateur, mais là, c'est vraiment pour que les personnes prennent conscience de à qui ils vont partager le contenu. Donc, je pense que c'est assez pédagogique. Maintenant, je suis assez curieuse de voir les impacts côté TikTok, hein, quand même.
Alors, oui, côté TikTok, moi, je pense qu'ils le font peut-être par pression du gouvernement chinois qui fait beaucoup de choses dans ce sens. En fait, ce que je pensais que tu allais dire, c'est demander à un adolescent dont la vie est sur TikTok en ce moment, hein, mais les autres réseaux aussi, si il ou elle veut que ne pas poster ses TikTok au monde entier. Alors, certains le voudront peut-être, mais ils peuvent déjà les choisir. Mais je pense que beaucoup d'entre eux et elles veulent justement poster ça partout. Et donc, est-ce qu'ils ne vont pas aller créer des comptes en mentant sur leur âge ? Dans des pays où il y a des systèmes justement
oui,
systémiques où on vérifie l'âge de la personne, c'est le cas en Chine, bon bah peut-être que c'est pas possible, mais je suis à peu près certain, c'est ça que je pensais que tu allais dire, mais je suis à peu près certain que les utilisateurs en France, surtout si on arrive à 15-16 ans, ils vont dire oh, tu m'emmerdes avec ton truc, moi je veux faire des vidéos pour tout
le monde. Mais c'est le cas de tous les réseaux sociaux.
C'est
je veux
sûr.
Dire, qui n'a jamais vu un adolescent avec deux comptes, l'un pour sa famille et l'autre où il va interagir avec ses amis.
C'est,
enfin, c'est quand même assez classique.
Tu dis deux, c'est même
pas
assez ambitieux. Oui, t'en as cinq ou six et tu switches en fonction de ce que tu fais. Ouais.
Mais bon, rien que d'avoir un compte où ils verront qu'en fonction de ce compte-là et de leur âge, ce qu'ils postent, on va leur rappeler à qui ils le partagent. Je trouve ça intéressant comme démarche. Alors, ça ne va pas atteindre potentiellement les postes où ils devraient faire le plus attention, mais ça rappelle, ça fait quand même une piqûre de rappel sur bah voilà, votre empreinte en ligne, voilà, ce que vous postez est définitivement posté, etc.
On a eu une mise à jour de l'interface, ou en tout cas du design de Twitter, qui a fait grincer des dents beaucoup de gens. Certains ont dit que, et d'ailleurs on a constaté ensuite que c'était effectivement le cas, la nouvelle police de caractère pouvait provoquer des maux de tête chez certains, en fonction de certaines conditions, situations de santé. Et au-delà de ça, on a une interface avec un gros contraste. Et c'est marrant parce que le contraste avait comme intention en partie de rendre les choses plus accessibles. Et les experts en accessibilité qui ont été consultés ensuite ont dit « Oui, non, mais là, c'est trop. » Et donc, ça peut provoquer des problèmes par ailleurs. Et c'est un petit peu ironique parce que je pense que l'idée de Twitter était vraiment... ils étaient bien intentionnés, mais ils n'ont pas assez intégré les questions d'accessibilité dans leur processus, alors qu'ils en ont quand même un peu. Clairement, ils ont mal géré les choses, mais c'est un processus d'apprentissage. Et si on veut voir le bon côté des choses, ils vont apprendre pour les prochaines mises à jour. Mais c'est vraiment intéressant. C'est un exemple de d'autres utilisateurs se plaignaient parce que ça a changé uniquement aussi. Évidemment, quand les choses changent, les gens ne sont pas contents. Mais je voulais noter, ils ont annoncé des modifications à ces modifications déjà il y a quelques jours. Pardon Fred, vas-y.
Et là, on parle de l'application sur iOS ou... Parce que moi, du coup, je suis un fervent utilisateur de Twitter et je n'ai pas eu de mise à jour de mon côté sur Android.
Alors, peut-être que ce n'est pas encore le cas sur Android, mais c'est le cas sur iOS et sur le web. Tu sais quoi ? Il est également possible que tu n'aies pas remarqué les changements, parce que c'est un changement de police de caractère et de quelques éléments de contraste qui vont être de couleurs différentes. Mais je ne serais pas surpris que tu ne l'aies pas remarqué. Si tu ne le cherches pas, peut-être que tu ne le trouveras pas.
Et si, par exemple, si tu vas sur Twitter et que tu as un G avec une boucle, c'est la nouvelle fonte. Ouais.
Okay. Ah, voilà, on a la...
la sur la partie web également
sur la partie web, tout à fait, ouais.
Ouais.
L'astuce de la designeuse, si on voit une boucle ici, on voit que effectivement c'est la nouvelle fonte qui s'appelle Chirp.
Alors, nouvelle fonte, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de retours sur cette nouvelle fonte. Certains disent que...
Nouvelle police de caractère,
qu'elle est...
police.
Police de caractère, oui, tout à fait.
Non, parce que moi, on m'engueule beaucoup quand je fais des anglicismes, et même si fonte est passé dans le langage courant, je crois que ce n'est pas le terme officiel. Mais... Pardon, je t'ai interrompu.
Oui, tout à fait, mais je n'ai jamais dit police de caractère.
Non, mais moi non plus, c'est uniquement dans l'émission, quand je pense aux emails et aux commentaires que je vais recevoir ensuite, que je me corrige.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de remarques sur, en effet, elle est difficile à lire, elle donne mal à la tête, etc. Enfin, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, quand on compare deux tweets avec les deux typos, c'est que très clairement, la nouvelle va faciliter la différenciation entre les mots. Les espaces entre les mots sont plus clairement visibles. Les lettres sont plus différentes les unes des autres. Donc, ça veut dire plus facile à lire et à identifier aussi. Et c'est moins fin. Donc, c'est un peu plus épais au niveau de l'écriture. Donc là aussi, en termes de contraste, c'est mieux. Après, on peut ne pas aimer ou aimer, mais en tout cas, c'est tout à fait compréhensible pourquoi ils ont changé de typographie. Et en plus, alors là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont fait appel à une fonderie, hein, à des spécialistes pour concevoir ces typographies. On peut dire police de caractère ou typographie, hein, d'ailleurs. et en fait, la typo Chirp, elle n'a pas été créée... from scratch, pas pour Twitter. Hein. Elle est très inspirée, très largement inspirée d'une typographie qui était déjà créée par cette fonderie, qu'ils ont très légèrement adaptée. Voilà, j'ai vu des comparaisons, c'est vraiment très, très, très légèrement adapté en termes d'espace entre les lettres, etc. Donc voilà, donc c'est pas non plus une typographie qui est complètement nouvelle, qui n'a jamais été testée, etc.
C'est bon à noter, effectivement. Eh bien, écoutez, on continue avec on parlait d'études la semaine dernière et d'études qui ont été bloquées par... Je parle d'études académiques, hein, de chercheurs qui ont été bloquées par Facebook. C'était des recherches sur le flux Facebook qui est, comme je l'expliquais la semaine dernière, différent pour chaque utilisateur et qui est donc très difficile à étudier. Eh bien, on a, après les chercheurs qui ont déclaré que leur outil, un plugin sur navigateur, avait été bloqué par Facebook, avec des excuses un petit peu spécieuses, c'est comme ça qu'on dit, je perds mes mots, il y a des chercheurs allemands qui, suite à ça, ont fait savoir qu'ils avaient également dû interrompre des recherches similaires en raison de menaces à peine voilées de Facebook, de menaces de poursuites judiciaires. Et on a toujours cette excuse de « nous protégeons la vie privée de nos utilisateurs », ce qui venant de Facebook est un petit peu a du mal à passer. Et il semblerait qu'ils aient été voir ces chercheurs allemands et leur aient dit « vous aurez plutôt intérêt à arrêter parce que sinon vous allez avoir des problèmes devant les tribunaux ». Et au-delà de ça, il semblerait que ça ne soit pas les seuls qui ont reçu des visites de ce type-là. Donc il y a une vraie préoccupation puisque, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, les recherches sont extrêmement importantes sur ces sujets pour qu'on puisse parler de choses solides et sensibles, enfin sensibles, de choses sur des bases solides et pas juste des impressions qu'on a tous sur les effets de ces réseaux. Et d'ailleurs, il y a une étude intéressante qui a été menée sur Twitter, qui a été publiée sur Yale News, donc l'université de Yale, qui confirme, alors encore une fois, hein, c'est une étude, et il faut généralement beaucoup d'études de ce type pour arriver à des consensus, mais qui confirme que la présence des likes et des shares, on parle de Twitter essentiellement, la présence des boutons like et share amplifie la rage, la frustration, le contenu à outrage, donc le contenu à outrageant, parce que c'est ça qui fonctionne. Et c'est une étude qui, là, dans ce cas précis, confirme un petit peu l'impression qu'on a tous et qu'on peut tous constater de manière empirique et de manière un petit peu, pas fiable, parce que nous, nos impressions ne sont jamais fiables, mais c'est une impression qui est quand même partagée par un bon nombre de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que là, elle est confirmée par cette étude de Yale. Et c'est pour ça que je pense que c'est important, c'est parce qu'on peut se baser sur ce genre de choses pour dire ensuite, oui, effectivement, ce type de fonctionnalité a, selon des études académiques sérieuses et aussi neutres que possible, cet effet. Et là, on peut prendre des décisions sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et pas juste sur des impressions qu'on a tous, même si on les partage tous, parce que les impressions sont souvent trompeuses. Donc le fait que Facebook soit visiblement en train de voyager partout dans le monde et de chercher à empêcher les chercheurs de faire ce genre de travaux est extrêmement préoccupant à mon sens.
Ouais, pour rebondir là-dessus, je suis tout à fait d'accord, c'est assez intéressant d'avoir ce genre d'informations. Pour rebondir, je ne sais pas si tu as vu ce test-là, je pense qu'ils doivent faire des A/B tests chez Facebook, mais en fait, ils sont en train de tester exactement ce qu'il y a sur Reddit, de faire monter le commentaire ou de descendre le commentaire.
Mmh. Bon, c'est un peu des likes et dislikes, c'est flèche vers le haut, flèche vers le bas.
C'est pas un pouce, mais c'est plutôt noter le... Ouais,
plus un, moins un, quoi.
Est-ce qu'il a apporté quelque chose ou est-ce qu'il a rien apporté ? Et je trouve ça intéressant, j'ai vu ce test-là la semaine dernière.
Ouais, alors Facebook est tout le temps en train de tester plein de choses. C'est clairement une idée intéressante et à suivre. J'ai du mal à imaginer comment ça influencerait les choses différemment de ce qu'on a déjà avec les likes, mais peut-être, je ne sais pas, à suivre. On parlait de Salesforce Plus tout à l'heure. Eh bien, Salesforce, qui est donc un outil de gestion de force de vente, a lancé Salesforce Plus, son service de streaming de vidéos. Et là, vous dites, mais de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'ils vont concurrencer Netflix ? Et en fait, non, c'est extrêmement intéressant ce qu'ils font. C'est évidemment un service de streaming de formation professionnelle qui est gratuit, mais qui va... alors, peut-être que ça changera à terme, mais qui va à terme... qui est censé ramener des gens vers l'outil Salesforce dans son ensemble. Et donc, c'est des outils de formation, de conseil qui sont conçus par Salesforce à ce stade, qui ont leur propre studio et qui ont engagé des gens pour créer ces vidéos. Alors, ils n'en ont pas énormément encore. Ils ont 6 séries spécifiques qui sont ciblées à la gestion d'entreprises, managériale, de force vive d'une entreprise, la gestion ou le mener une entreprise avec le changement, il y a plein de ce type de trucs qui peuvent faire grincer des dents sérieux certains en se disant ah c'est des trucs de self-help un petit peu ridicule pour gérer être super performing en enterprise, mais il y a évidemment des compétences à acquérir et puis c'est pas forcément facile de suivre l'évolution de nos métiers dans ce type de domaine et ça peut être un outil moderne sympa pour avoir au moins un début d'intérêt et de connaissances sur ces sujets. Donc, je trouve ça assez intéressant qu'une société comme Salesforce se mette à proposer un service de streaming. Je vais lire quelques news rapidement et puis je vous redonne la parole. On a des études qui disent qu'entre juin et juillet, les temps d'attente de processeurs sont passés ont augmenté de 8 semaines, c'est-à-dire qu'on est désormais à 20 semaines d'attente quand on commande un processeur en moyenne, et donc ça a augmenté depuis juin, et ça n'a pas du tout réduit, donc la pénurie est a encore de beaux jours devant elle. Une info qu'on pourrait couvrir plus longuement, mais qui est encore embryonnaire, donc je vais juste la mentionner, il y a une proposition de loi bipartite qui a été présentée au Sénat américain, qui viserait à imposer aux développeurs, aux constructeurs de téléphones et aux développeurs de systèmes d'exploitation, donc on parle spécifiquement de Apple et Google avec iOS et Android, donc qui leur imposerait d'autoriser les autres App Store, et donc le sideloading, le chargement d'app sans passer par leur App Store, et il leur imposerait également d'accepter d'autres moyens de paiement que leurs propres moyens de paiement sur leur plateforme. C'est des changements radicaux dont on a beaucoup, beaucoup parlé il y a quelques semaines de ça déjà, donc je ne vais pas refaire tout le laïus, c'est un problème qui est très complexe, mais c'est très intéressant de noter que le gouvernement américain, enfin en tout cas trois députés, sont en train de proposer des choses, ce n'est pas la première fois, mais ça revient sur le devant de la scène, sont en train de proposer des choses très concrètes pour imposer le changement dans ces domaines-là. À noter qu'on ne sait pas comment ça... il faut voir comment les choses seraient formulées, mais on peut se demander si ça serait applicable à d'autres écosystèmes de ce type, par exemple les consoles de jeux. Et là, il y a un gros point d'interrogation parce que les conditions sont différentes dans les consoles de jeux et dans d'autres types de stores de ce type-là. Et encore une fois, la proposition de loi a été présentée. Il faut qu'elle passe par le Parlement, par le Sénat, qu'elle soit acceptée pour les deux, puis qu'elle soit combinée avec les deux versions. On n'est pas du tout à une application encore. Et en parlant de régulation, la Chine a présenté un plan qui va durer jusqu'à 2025 pour assurer le développement sain des nouveaux business models. Je le mentionne parce que ça me donne l'occasion de faire remarquer une chose que je voulais dire la dernière fois et que j'ai oublié. Je voudrais faire remarquer à quel point on a dans les trois gros centres de politique et de puissance, de pouvoir du monde, des gouvernements qui sont en train de chercher à réguler l'industrie tech à leur manière. Alors en Chine, c'est évidemment très directif, voire totalitaire dans la manière de gérer les choses. En Europe, c'est évidemment moins le cas, mais on a clairement une question d'interventionnisme de l'État qui est plus forte qu'on ne le voit aux États-Unis, mais même aux États-Unis, ça commence à arriver, et les discussions, alors évidemment aux États-Unis, on a moins d'intervention de l'État, c'est classique, mais là on commence à parler de choses qui sont qui imposent des conditions assez drastiques, à voir si elles vont être votées également. Donc vraiment, c'est un changement de direction global, et chaque centre de pouvoir le fait à sa manière. Donc c'était une chose que je voulais noter aussi. Alors, c'est des sujets un petit peu différents, hein, mais on est dans les news rapides. Donc, entre Salesforce, les lois sur les App Store, les processeurs qui sont en retard et la Chine qui régule le développement de l'industrie tech, vous avez le choix. Je vais laisser Fred parler en premier. Dis-moi ce qui t'a marqué. Je suis sûr que c'est Salesforce yes. Plus sur lequel tu vas te jeter tout de suite.
Très, très bien vu, ouais. Enfin, je trouve l'approche vraiment hyper intéressante parce que là, on est typiquement, si je dis pas de bêtises, hein, sur de l'inbound marketing. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer du contenu de qualité qui est abordable gratuitement et qui permet du coup d'imposer, on va dire, un peu, de manière consciente et inconsciente la solution Salesforce. Donc c'est je trouve que l'approche elle est super cool. Google, je sais que Google fait un peu la même chose, alors par contre il le fait payer au travers de cours type Coursera, hein. Si je dis pas de bêtises, on est quand même sur des plateformes de mock où il propose par exemple des formations de chef de projet qui restent dans l'approche un peu généraliste, toujours avec un logo Google, et forcément derrière je pense qu'il y a aussi l'introduction de l'écosystème et des différents produits. Et ensuite ce qui est assez étonnante, enfin j'en avais pas entendu parler, mais c'est ce que tu disais, donc cette nécessité, alors potentiel, un futur, de devoir permettre l'installation d'un store Android sur un store Apple. Enfin, je trouve ça assez fou dans le sens où je ne vois pas du tout comment ça pourrait être matérialisé.
Alors, excuse-moi, je t'interromps pour éviter la confusion. C'est n'importe quel store. On pourrait effectivement imaginer que Google crée son store sur iOS. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, peut-être que ça se produira. Mais c'est essentiellement pour c'est essentiellement destiné à c'est destiné à n'importe qui, hein. C'est pas forcément Android. On pourrait imaginer un store de Epic par exemple qui vendrait des jeux, ou n'importe qui pourrait créer son store, Amazon, enfin n'importe qui. Oui.
iOS, même si ça vient pas du store Apple en fait.
Ça, quoi, pardon Marion, j'ai pas entendu le début de ta phrase.
Ça restera des applications iOS pour le système iOS,
tout à fait.
C'est pas Android.
Tout à fait, oui.
Exactement. Ok, très bien. Bon, c'est
mais encore clair. Tu sais Marion, à partir du moment où on peut décider qu'on peut mettre n'importe quoi sur un appareil iOS, pourquoi pas développer une application qui soit une sous-application Android sur iOS. Bon, ça serait un petit peu difficile parce qu'il y a quand même des choses qui se passent au niveau de l'OS lui-même qui empêchent certaines choses, et j'imagine qu'Apple aurait des choses à dire là-dessus. Mais ça pose plein de problèmes, hein. Ça pose des problèmes du genre, est-ce que Apple serait obligé de maintenir la garantie de l'appareil si on peut installer n'importe quoi sur l'appareil, alors que justement c'est l'un de leurs arguments. En même temps, chez Android, votre appareil est garanti même si vous sideloadez des applications, mais c'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, ce type de décision.
Ouais, non, ça va être très intéressant à suivre.
Marion, autre chose ou on conclut cet épisode ?
Non, je pense qu'en effet, Fred a bien rebondi sur la news Salesforce. C'est assez intéressant et c'est vrai que le e-learning a été pas mal boosté avec la crise sanitaire ces dernières années.
Je trouve ça assez malin. C'est une utilisation de la technologie moderne qui est assez intelligente pour un système dont on pourrait se dire que c'est un petit peu poussiéreux et que c'est pas forcément la concurrence de Netflix qu'on irait imaginer chez Salesforce. Dernière news que je vous partage juste comme ça rapidement, qui sera, alors normalement la newsletter va revenir, on essaye cette semaine, peut-être la semaine prochaine, mais donc vous pouvez aller vous abonner à la newsletter sur notepatrick.com, hein, il y a un petit lien pour mettre la newsletter, et cet article y sera. C'est un article du Wall Street Journal qui est absolument délicieux et un petit peu peut-être inquiétant sur notamment des ingénieurs, mais pas que, qui ont, depuis la crise sanitaire et le travail à la maison, commencé à tenir deux emplois à temps plein, hein, des CDI, en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement été chercher un deuxième boulot et qu'ils ont leurs deux ordinateurs pour leurs deux boulots à temps plein qu'ils font en même temps depuis chez eux sans que personne ne s'en aperçoive. Et c'est vraiment intéressant, ils s'échangent, il y a c'est Overemployed, je crois, le blog qui détaille des astuces pour comment faire pour gérer les meetings quand il y en a deux. C'est des échanges sur un Discord où ils vont dire les meilleures excuses pour quitter un meeting quand le boss de l'autre boulot te contacte, ce genre de choses. Et c'est évidemment l'une des choses importantes, c'est faut pas en faire trop, faut pas se faire remarquer, et faut faire juste le boulot juste comme il faut pour pas que ça soit que ça se voit en fait qu'on a les deux boulots, et puis ne pas en faire trop, ne pas aller chercher à résoudre des problèmes si on nous les donne pas directement, etc. C'est vraiment intéressant. Il y a plein de détails comme la réaction de manager qui se rendent compte que la personne a deux boulots et qui parfois ont pas la réaction qu'on pourrait imaginer. C'est vraiment un article intéressant sur le Wall Street Journal. Il sera dans la newsletter. Et du coup, Marion, tu as été découverte. Toi qui fais quatre boulots en même temps, mais toi, tu les fais deux boulots sur chaque main et tu es en plus overperforming sur chacun d'entre eux, tellement tu es incroyable. Donc,
moi, je suis grillée depuis longtemps. Je mets mes enregistrements rendez-vous tech dans mon calendrier Alan, donc autant te dire que...
Bon, Bon, bah, ça va, t'es clean alors, c'est très bien. Bon, bah, merci à tous les deux de votre participation à l'émission. Avant de se quitter, on va évidemment en apprendre plus sur ce que vous faites. Marion, peut-on te retrouver sur Internet ?
Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Twitter au pseudo Aizea Design. Et puis à la rentrée, à une date indéterminée encore, ce sera la reprise du mug sur Twitch où on débriefe de l'actu tech. Voilà, où c'est tous les... Alors, à une date indéterminée encore, je vais peut-être changer de jour. Avant, c'était le mercredi, je changerai peut-être pour un autre jour de la semaine. Mais voilà, ce sera sur la chaîne Twitch Naotech QG.
Super, on a hâte que ça revienne. Merci Marion. Fred, où te retrouve-t-on sur Internet ?
Ben moi sur Twitter également, @ChromebookLive tout simplement, mais aussi sur le site ChromebookLive.com et sur la chaîne YouTube TechLive où je fais quand même pas mal de reviews autour de l'écosystème Google et précisément Chromebook et Chrome OS.
Magnifique, et les liens vers vos deux comptes Twitter seront dans les notes de l'émission, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-bas. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens vers tout ce que je fais sur NotePatrick.com. C'est super simple. Et vous aurez là-bas le lien, comme je le disais, vers la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner pour ne rien rater de mes trouvailles dans la veille assez large que je fais sur la tech et le gaming. Et vous pouvez aussi trouver le lien vers Patreon. Mais ça, vous l'avez aussi dans les notes de l'émission. Patreon.com/RDVTech pour soutenir l'émission. Si vous voulez être une personne éveillé à votre potentiel, vous pouvez devenir patriote et vous quitterez la grisure, la grisaille de la vie des gens normaux et vous deviendrez une personne éclairée, multicolore et éclatante en étant patriote. Patreon.com/RDVTech.
Depuis que j'écoute le rendez-vous tech, j'ai perdu 10 kilos pour information.
J'ai perdu 10 kilos, mes cheveux repoussent, l'amour est revenu, tout ça.
C'est ça.
Et franchement, c'est une proposition à laquelle on ne peut pas dire non. Patreon.com/RDVTech. Merci à tous. On se retrouve dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao.